La Gaule, dans son ensemble, est divisée en trois parties, dont l'une est habitée par les Belges, l'autre par les Aquitains, la troisième par ceux qui, dans leur propre langue, se nomment Celtes et dans la nôtre, Gaulois. Tous ces peuples diffèrent entre eux par la langue, les coutumes, les lois. Jules César, livre premier de la guerre des Gaules.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
La Gaule et les Gaulois bénéficient de toute une série d'idées reçues qui ont été faites depuis César à leur encontre. Il faut essayer de s'en débarrasser. Il faut combattre l'idée que la Gaule d'avant la conquête romaine était une civilisation profondément arriérée et que Rome y apporta la civilisation. À vrai dire, la civilisation gauloise a sa propre existence que des recherches archéologiques ont permis de beaucoup mieux connaître depuis quelques années. Ils jouissaient d'une authentique civilisation que révèlent leurs inventions technologiques, leurs formes d'art originales, leurs pensées religieuses et leurs institutions politiques. Il est vrai qu'il n'y a pas de Gaule unie avant la conquête par les Romains. Il s'agit en fait d'une soixantaine de peuples que César appelle dans sa guerre des Gaules des cités, qui forment une série d'entités politiques, administratives, territoriales. Mais leurs apports technologiques sont indéniables dans le monde antique. Ils ont créé le tonneau, c'est connu par beaucoup, mais ils étaient également très réputés dans l'Antiquité par une série de chariots dont ils étaient maîtres dans la fabrication. Ainsi, ce qu'on appelle les sedum, en latin, un char à deux roues, le carpentum, qui est une voiture bâchée, le carus, une voiture à quatre roues, mais également des vêtements, le caracalla, le cuculus, le byrus, qui sont effectivement des manteaux que les Romains ont d'ailleurs en partie adoptés. D'autre part, ce qu'il faut bien percevoir, c'est que les Gaulois, avant la conquête romaine, ont des contacts commerciaux extrêmement importants. D'abord, avec les vieilles cités grecques du sud de la Gaule, Marseille ou Agde, par exemple. Mais à partir de 118 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à partir de la création de la province de Narbonnaise, les Gaulois ont effectivement commercé avec le monde romain. On a retrouvé des centaines de milliers d'amphores de vin et d'huile qui parvenaient de l'Étrurie, c'est-à-dire de l'Italie centrale, ou du Latium. Et en contrepartie, les Gaulois payaient ces denrées avec des minerais, des produits agricoles, des esclaves, mais aussi des outils et des véhicules dont il a été fait tout à l'heure allusion. Bref, nous avons affaire à une véritable civilisation qui ne mérite pas le terme de barbare arriéré. Ce qui est vrai également, c'est que les Gaulois, même s'ils sont effectivement désunis, ont tout de même essayé de concevoir un système de fédération qui se regroupe les uns avec les autres. Les Celtes entre la Seine et la Garonne, les Belges entre la Seine et le Rhin, les Aquitains au sud de la Garonne. Ces trois ensembles avaient conscience d'appartenir à une même sphère et s'étaient dotés de quelques institutions communes. La plus remarquable est celle que César appelle le Conseil de toute la Gaule. Toutes les cités y déléguaient des représentants qui se réunissaient au moins une fois chaque année et désignaient parmi eux un peuple patron qui disposait, le temps de son mandat, d'une autorité morale et d'un pouvoir d'arbitrage. Il pouvait, en cas de nécessité, décider la constitution d'une armée confédérale. L'autre institution gauloise est plus célèbre. Il s'agit d'une cour de justice animée par des druides et dont la compétence s'étendait non seulement à tous les Gaulois, mais aussi aux cités qui composaient la Gaule. Elle tenait ses assises une fois par an, au centre de la Gaule, chez le peuple des Carnutes, dans l'actuelle plaine de la Beauce. Il devait d'ailleurs s'y trouver aussi un lieu de culte commun à tous les peuples et où on rassemblait les enseignes militaires. Une vraie civilisation, oui, mais en même temps, un pays effectivement politiquement désuni. Deux grands peuples se sont affrontés au cours des années 70 avant Jésus-Christ. D'une part, les Édouins, d'autre part, les Séquanes. Les Édouins sortaient régulièrement victorieux de ces affrontements. En désespoir de cause, les Séquanes se résolurent donc à recruter des mercenaires chez les Germains, qui peuplait la rive droite du Rhin. Ces hommes, encore partiellement nomades, étaient de redoutables guerriers. Leur irruption dans le conflit entre ces deux peuples gaulois en changea la face. Ils repoussèrent les Édouins. Trouvant les terres de la Gaule plus agréables et plus riches que les leurs, ils s'y installèrent, tout d'abord chez les Séquanes, en paiement de leurs prestations, puis chez les Édouins. Les deux anciens adversaires finirent par s'unir pour repousser les envahisseurs, mais en vain. La menace germaine était devenue si importante, aux alentours de 60 avant Jésus-Christ, que fut constituée une armée confédérale pour tenter de les chasser. La bataille eut lieu à Admargetrobriga, une commune près de Luxeuil actuellement. Ce fut un désastre pour les Gaulois. Les Éduins y perdirent toute leur aristocratie. Toutes les familles nobles durent fournir des otages aux Germains. Ce qui fait que ces derniers considérèrent à ce moment-là que la Gaule chevelue, par opposition à la province de Narbonnaise, était leur province. Ils y firent venir, pour la coloniser, des peuples amis ou parents du centre et du nord de l'Allemagne actuelle. Ce fut les débuts d'une attention toute particulière de Rome envers la situation en Gaule. D'autres éléments ont poussé d'ailleurs les Romains à progressivement intervenir. D'abord, la migration des Helvètes. Les Helvètes occupaient à peu près l'actuel territoire de la Suisse. Or, au début des années 50, les Helvètes ont commencé à descendre le long de la Saône et du Rhône afin de s'installer dans la région de l'actuelle cité de Lyon. Or, il est bien évident qu'on se rapprochait là énormément de la Gaule narbonnaise et que Rome pouvait s'inquiéter de l'irruption de ces nouvelles migrations gauloises. D'autre part, Rome commençait aussi à s'inquiéter de l'activité d'un étrange druide appelé Divitiac. Ce Divitiac, semble-t-il, a fomenté un complot pour essayer de prendre le pouvoir dans la Gaule chevelue et ainsi essayer de fédérer ou du moins de contrôler les populations gauloises. Ce projet n'aboutit pas. Le druide fut d'ailleurs mis à mort et la migration des Helvètes, qui avait été décidée par les assemblées de ce peuple, continua de plus belle. Ainsi, Rome se rendait compte que la situation gauloise posait un réel problème. Il se trouve qu'en 59, Jules César obtint un proconsulat en Gaule narbonnaise. Ainsi, l'arrivée de César en Gaule narbonnaise fournit la situation qui allait expliquer la future conquête romaine. En effet, pour César, à qui il manquait une vraie gloire militaire, la possibilité de conquérir la Gaule allait bientôt être fournie. Désormais, cette civilisation gauloise, cette Gaule indépendante, allait devenir, pour Jules César, un terrain de politique romaine. En essayant de conquérir la Gaule, il allait essayer de maîtriser le pouvoir à Rome. C'était une manière, finalement, d'essayer de se faire une place au soleil dans la ville éternelle face à Pompée le Grand. La grande civilisation gauloise, qu'il faut donc surtout ne pas négliger, allait bientôt être confrontée à la puissance de Rome, mais c'est désormais une nouvelle histoire.